Je veux dire, ça fait un peu le désert de ce côté. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce matin à notre culte. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, vous derrière la caméra, devant vos écrans, peut-être sur le canapé, comme on dit à chaque fois, avec votre café. J'espère que vous, ici, vous allez bien. Vous allez bien ? Vous êtes là ? Et vous êtes magnifiques avec vos masques, ça fait... un truc très coordonné, très belle couleur bleue. Voilà, et on est de nouveau pour notre culte ce matin. Et encore une fois, vous dire que vous êtes les bienvenus, mais aussi que vous puissiez vous sentir libre ici de vous lever, de louer Dieu au travers des chants, mais vous aussi, derrière l'écran, de louer Dieu librement. Amen. Et avant de commencer, on va présenter ces instants à Dieu et lui dire qu'il est le bienvenu. Seigneur, te remercions vraiment pour cette matinée. Te remercie encore parce que tu nous accordes le souffle de vie. Et Seigneur, nous voulons ce matin encore te louer, t'adorer, te dire combien nous t'aimons, combien, Seigneur, tu es précieux à nos yeux, Seigneur, et te dire oui, prends toute la place. Sois le bienvenu ce matin, ici, dans ce lieu, mais aussi avec toutes les familles, Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées sur Internet, qu'il y ait ta présence, ta touche divine, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts encore ce matin à entendre parler de toi. Amen.
Bonjour à chacun, bonjour à vous tous, toutes les nombreuses personnes ici et les autres aussi, bien sûr. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent sur leur écran. Voilà, nous sommes heureux d'être là et nous vous bénissons vraiment de la maison de l'Éternel. Alors je vous invite, pour ceux qui sont là, à vous lever, et même les autres chez vous. Ça m'est arrivé de suivre des cultes aussi, comme ça en distance. Je trouve que c'est tellement bien de se mettre dans une position pour louer, pour adorer, pour proclamer qui est Dieu. Et avant de prendre le premier chant, Simon va nous lire quelques versets du psaume 118 qui nous introduit dans ce temps de louange.
Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel par sa puissance fait des exploits, car l'Éternel par sa puissance remporte la victoire. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours.
Célébrons l'Éternel ensemble.
En toi, tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie.
Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Car tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Souverain, mon sauveur, règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux.
Rien ne peut nous séparer de toi, de ton amour. Nul ne peut nous arracher de ta main, Seigneur. Et nous voulons proclamer tous ensemble, en ce lieu et au-delà aussi, que tu es élevé, que tu as vaincu la mort, tu es vivant, tu es ressuscité. Et nous voulons ce matin vraiment proclamer ta victoire, Jésus-Christ. Tu es ce Dieu vivant, ce Dieu puissant que nous aimons et que nous servons. Amen.
Il est juste et bon.
tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Il est vivant, il est ressuscité. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés.
Elle s'est détournée, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée.
Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité.
Pour remercier Dieu, pour l'adorer, vous qui êtes derrière vos écrans, vous ici, vraiment prenez la place et remerciez, louez Dieu. Seigneur, ce matin encore, c'est vrai, je veux dire, à jamais tu es élevé, à jamais tu es glorifié, Seigneur. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci parce qu'il efface nos péchés. Merci parce qu'il nous libère, Seigneur Dieu. Merci parce qu'il nous rend enfants de Dieu. Merci, mon Dieu, pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu, pour qui tu es jour après jour. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Tu demeures fidèle, Seigneur. Amen. À toi soit toute la gloire, Père.
Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour, Seigneur. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons élever encore ton nom. Oui, gloire à ton nom. Gloire à Jésus-Christ.
Oui, Seigneur, nous célébrons ta victoire, ton règne, ton autorité. Tu es digne de nos louanges, Seigneur. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, Seigneur, et nous chérissons ta présence, Seigneur, dans nos vies. C'est le bien le plus précieux que tu nous as fait, Seigneur, et nous voulons encore te louer, t'adorer avec tous nos frères et sœurs. Tu es digne, Seigneur, Dieu de gloire, nous t'adorons ensemble.
Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint.
Tu fais et tu feras tant de merveilles. En ton temps tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement.
Chantons ensemble.
Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, en ton temps tout s'accomplit, tu es Dieu. Que les plus beaux diamants, elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence,
précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres dans les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement.
Amen. La présence de Dieu nous suffit pleinement. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Quand Dieu est avec nous, ben alors j'ai l'impression que c'est feu d'artifice, moi, dans mon cœur et dans ma vie. Et je suis tellement remplie de joie, remplie de paix et reboostée pour toute la journée, voire même plus. On va passer à un temps d'annonce. Donc, si vous voulez nous contacter, vous le savez, vous pouvez nous envoyer un mail sur contact@epi-strasbourg.eu. Ou sinon, il y a deux numéros de téléphone. Je vais essayer de répondre, n'appelez pas tous en même temps, mais appelez-nous quand même, au 03 88 40 26 41 et au 06 28 13 58 51. N'hésitez pas, même si vous voulez faire un petit coucou, vous nous donnez des nouvelles, je vais bien, tout va bien, ça nous fera vraiment plaisir d'avoir de vos retours. Alors la semaine dernière, il y a eu l'Assemblée Générale et nous remercions toutes les personnes qui ont été présentes ici, dans l'église, mais aussi ceux qui étaient connectés. Et ceux qui souhaiteraient avoir le compte-rendu, eh bien, écrivez-nous par mail à l'adresse contact@epi-strasbourg.eu. N'hésitez pas de nous le demander, je vous le renverrai. On va passer à une annonce vidéo. Excusez-nous, c'est du direct, là, du vrai direct.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse exclusivement aux hommes. Pourquoi ? Avec l'EPI, nous aimerions organiser une journée spéciale hommes. Et je vous donne déjà rendez-vous samedi 10 octobre de 14h à 17h. Le thème que nous allons partager ensemble est « Fortifie-toi et prends courage ». Et pour partager ce thème, nous avons la joie d'avoir un orateur qui vient de Bordeaux, de l'église Momentum, qui s'appelle Jérémy Poulet. Et c'est avec beaucoup de joie qu'il va nous partager ce qu'il a sur son cœur, sur cette thématique « Fortifie-toi et prends courage ». Je vous invite vraiment à nous rejoindre, parce que ça va être un moment béni. En plus, il y a une pause où on va partager un moment de bière. Franchement, c'est l'occasion de bien profiter ensemble. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site www.epi-strasbourg.eu et vous cliquez sur l'inscription qui concerne cet événement en particulier. Et on sera heureux de vous accueillir le samedi 10 octobre. Alors surtout, retenez cette date, soyez avec nous et c'est avec beaucoup de joie qu'on vous passera cette journée ensemble. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
Je pense que vous comprenez pourquoi c'est moi qui n'ai pas fait l'annonce. C'est parce que, messieurs, vous êtes concernés, c'est pour vous, donc notez bien le 10 octobre. Et mesdames, vous inquiétez pas, ça arrivera un jour. Ah, il y a des amens. Okay. Alors, je ne sais pas s'il a été annoncé la reprise de l'épisode, mais l'équipe épisode, tous les moniteurs vont se retrouver pour réfléchir de nouveau par rapport à la rentrée. Elle ne se fera pas comme il a été annoncé le 4 octobre, mais ils sont en train de réfléchir parce qu'il y a de nouvelles directives qui ont été apportées. Justement, par rapport à ces annonces relatives aux dernières directives. Je vais vous lire un mail qui nous a été donné. Donc, chers frères et sœurs, les médias se sont fait l'écho ces derniers jours des nouvelles mesures préconisées par le ministère de la Santé et en Alsace par la préfecture. Certains responsables d'église ont exprimé leur inquiétude sur l'impact que cela pouvait avoir sur l'exercice du culte. Comme vous le savez, nous avons un contact régulier avec la préfecture et notre correspondant nous a assuré que rien n'était changé pour les cultes et qu'il n'y a pas notamment de déclaration préalable à faire. Nous ne sommes pas encore dans la situation de nos amis québécois ou celle vécue dans d'autres départements, mais pensons à eux dans nos prières. Nous avons pu l'interroger également à propos de l'utilisation des salles annexes, notamment pour les rencontres des enfants, pour les clubs du dimanche. Sa réponse est claire, les salles annexes sont dans une logique ERP, avec les règles Covid qui s'appliquent compte tenu des activités et des publics concernés. Il n'y a pas de prescription spécifique au motif qu'il s'agit d'annexes à un lieu de culte, sauf si l'activité est culte, chant, prière, etc. Auquel cas, les règles Covid culte s'appliquent. Il précise, dans ce domaine comme dans d'autres, il importe pour l'organisateur, en appliquant la règle, d'en mesurer les raisons et les objectifs. C'est là que se situe exactement sa responsabilité. Car entre une règle, si précise soit-elle, et la réalité, il y a toujours un écart dû aux circonstances, aux caractéristiques d'un local, d'un public et d'une activité. La notion de discernement y pourvoit. Il ne s'agit pas de prendre des libertés avec une règle, de l'interpréter de manière personnelle, mais de faire en sorte que les objectifs qu'elle poursuit soient scrupuleusement mis en œuvre compte tenu des circonstances et caractéristiques que je viens d'évoquer. Voilà, donc rassurez-vous, on est toujours en contact régulièrement. Et comme on dit, c'est vrai que les médias parlent beaucoup de cette crise sanitaire, mais d'autant plus nous devons être, nous, des personnes qui parlent de Jésus-Christ et des disciples de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? On va passer maintenant à la présentation d'une petite Elena. On va demander aux parents de s'approcher et à Jacques, s'il veut bien, pour qu'il présente l'enfant.
Voilà, bonjour à chacun. Je demandais aussi à Freddy aussi de venir avec moi. On va présenter la petite Elena. Je voudrais simplement, avant de la présenter, bien sûr, transmettre toutes les félicitations de l'Église, hein, aux heureux parents, puis prier pour que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je voudrais m'adresser peut-être aussi à ceux qui sont là, peut-être pour les premières fois au milieu de nous, ceux qui nous regardent également sur le net, qui se posent peut-être la question, qui ne sont pas au fait de ce qu'est la présentation d'un enfant, pourquoi nous ne baptisons pas les enfants et pourquoi nous les présentons. Eh bien, tout simplement, nous ne baptisons pas les enfants par fidélité à la parole de Dieu, puisque le baptême des adultes, le baptême par immersion, eh bien, c'est le seul vrai baptême que la Bible reconnaît. Et quand on parle d'immersion, donc c'est en image à la mort du Christ, de l'ensevelissement de Christ et de la résurrection du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous ne baptisons pas les enfants aussi pour une deuxième raison, parce que quand la Bible parle de baptême, jamais elle n'a parlé de baptême d'enfants. Pour une troisième raison également, parce qu'un enfant, il y a des choses qu'il peut comprendre et d'autres choses qu'il ne peut pas comprendre. Et le processus, justement, de la conversion qui précède le baptême ne peut pas être compris par un enfant. Et puis, une quatrième raison, c'est parce que le Seigneur Jésus, qui est notre maître, eh bien, nous a laissé un exemple parfait. Eh bien, lui, il a été baptisé par Jean le Baptiste alors qu'il était également adulte. Mais par contre, la parole de Dieu nous parle de la présentation d'un enfant. Et Jésus lui-même, par ses parents, a été présenté au temple aux autorités religieuses qui l'ont justement béni. Plusieurs textes de la parole de Dieu, eh bien aussi, nous montrent que les enfants étaient amenés vers Jésus, qui leur imposait les mains et qui les bénissait. Et puis aussi, quand on prie pour un enfant, quand on présente un enfant, nous prions aussi pour les parents. Parce que c'est à eux que Dieu a donné l'autorité, la sagesse, l'intelligence spirituelle pour pouvoir conduire l'enfant juste dans l'âge adulte où il pourra un jour choisir de lui-même et de s'engager dans les eaux du baptême. C'est ce que nous dit le proverbe 6 au verset 22 qui nous dit tout simplement « Instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel ». Et ainsi, devient, quand il sera plus vieux, il pourra donc s'engager et suivre la voie du Seigneur. Voilà donc pourquoi nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons au Seigneur, afin que la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur repose sur lui, en l'occurrence elle, et sur toute la famille. Je vais vous demander à toute l'Église de se lever. Les protocoles sanitaires nous invitent donc à ne pas justement toucher, à ne pas imposer les mains, mais nous allons simplement, et je vous demande également, vous aussi, tendre les mains vers la famille pour les bénir. Alléluia. Nous te remercions parce que tu es le Dieu vivant et le Dieu puissant. Nous te remercions parce que tu es l'éternel Dieu qui bénit. Nous te louons parce que, Seigneur, tu pourvois et tu es le Dieu, Seigneur, qui donne tout à merveille. Ce que tu le fais à merveille. Nous te remettons, Elena. Nous prions pour elle, Seigneur. Nous prions pour sa santé. Nous te prions que dans ce temps de crise sanitaire, tu la gardes, tu la protèges, tu la bénis, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions aussi, Seigneur, mon Dieu, pour ses parents. Afin, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse pouvoir l'éduquer, Seigneur mon Dieu, avec toute la sagesse et l'intelligence qui vient de ta parole, afin que cet enfant puisse plus tard pouvoir, Seigneur, choisir les voies droites de l'Éternel. Nous te prions pour l'avenir de cet enfant. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour un projet particulier pour elle. Nous croyons que tu es l'éternel Dieu qui bénit et l'éternel Dieu qui pourvoit. Alors, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, nous bénissons cet enfant et nous te prions également que tu lui donnes une bonne santé. Une santé, Seigneur mon Dieu, physique, bénie par ta grâce et par ta puissance. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Nous te remettons ses parents que nous bénissons également. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, qu'ils aient toute l'autorité et la sagesse pour instruire, Seigneur mon Dieu, c'est Elena dans tes voies et, Seigneur mon Dieu, dans les voies qui lui permettront plus tard de s'engager, Seigneur, dans les eaux du baptême et de te choisir, toi, le seul vrai Dieu. À toi soit l'honneur, la louange, la puissance et la force, dans le merveilleux nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et avant de terminer, je vais juste laisser aux parents ce texte du livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 24. Quand l'Éternel Dieu avait dit à Moïse, tu parleras à Aaron et à ses fils, et c'est ainsi qu'ils béniront les enfants d'Israël. Et cette bénédiction, on veut la prononcer sur vous, la famille, et sur Elena en particulier. Vous l'en faites vôtre. Et que cette bénédiction vous accompagne en tout temps. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. 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 Voilà, Elena, elle a dit Amen. Hein, elle n'a pas encore pu s'exprimer comme elle voulait le faire, mais elle a pu le dire Amen. Alors que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent et accompagnent également votre enfant. Amen.
Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet enfant et que Dieu l'accompagne. On va maintenant laisser toute la place à Yolande qui va nous apporter un message ce matin.
Bonjour, Je me permets de... Désolée, équipe technique, je pose par terre.
D'accord.
Merci. C'est dans ce sens. Un petit peu d'installation ce matin. Contente de vous revoir. Bonjour aussi à tous ceux qui sont devant les écrans, que ce soit là en direct ou plus tard en différé. Le thème de ce matin que j'ai envie de partager, c'est le thème du renoncement à soi, du moi crucifié. C'est quoi ce truc? Et surtout, qu'est-ce que vient faire ce thème alors que notre équipe pastorale a annoncé une série de 7 signes? Alors, il y a 2 semaines, le pasteur Raymond Pierre nous a interpellés, je vais le citer, à passer d'une vie de consommateur à une vie de disciple où le moi n'est plus au centre, mais où Jésus est au centre. Et la semaine dernière, le pasteur Pierre Samuel nous a interpellés, pareil, je cite, « Jésus a-t-il l'autorité complète sur notre vie? Est-il vraiment notre Seigneur ?» Donc ce matin, je vais faire en quelque sorte un zoom sur ces aspects-là. Alors, je ne sais pas trop comment je dois dire. Mon objectif, c'est de rendre peut-être plus concret ou de donner une compréhension renouvelée de cette question du renoncement à soi, de la mort à soi ou du moi crucifié. Et je vais le faire à l'aide d'une parabole. Cette parabole permettra à la fois peut-être à chacun de nous de vérifier où on en est dans notre compréhension. Et puis, ça va être un bon truc mémotechnique pour s'en souvenir. Mon plan. Premièrement, nous allons voir les versets qui parlent de ces thèmes. Deuxièmement, nous allons voir les mauvaises compréhensions qu'on peut avoir de ces passages. Je vais vous donner une définition du moi. Je vais vous proposer une parabole et vous donner les fondements bibliques. Et concrètement, nous allons voir ce que ça signifie à travers plein d'exemples. Les passages dans les évangiles, Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et vous allez trouver les mêmes pensées dans Marc 8, Luc 9, Matthieu 10. Je ne sais pas s'il est... Non, ça ne s'affiche pas. Jean l'aborde d'une manière un peu différente. Il dit « Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. » Paul ne parle pas de renoncement à soi, il parle du moi crucifié. Galates 2, 20 « J'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Dans Galates 6 et Romains 6, vous avez la même pensée. Tous ces passages parlent de mort. Être crucifié était une façon horrible de mourir. Le grain de blé doit mourir. On doit perdre sa vie. Quand on dit que quelqu'un a perdu sa vie dans un accident, il est mort. Donc, dans notre vie chrétienne, il y a quelque part un processus de mort. Pourtant, vous êtes tous là en face de moi, ou bien devant votre écran, et vous êtes bien vivant. Paul, quand il a dit « J'ai été crucifié avec le Christ », il parle au passé, et pourtant, il est bien vivant quand il parle. Alors, c'est quoi cette mort dont il est question? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Les incompréhensions que ces passages suscitent et que je rencontre souvent dans mon travail d'accompagnement. On ne sait pas à quoi on doit mourir. Il y a confusion entre mort et destruction. Beaucoup pensent que le but de Dieu est la destruction du moi. D'autres croient que dans le processus de sanctification, l'Esprit Saint aurait comme but de rayer complètement notre moi humain pour le remplacer par Christ, puisqu'il est dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Porter sa croix a été souvent interprété comme sacrifier ma personnalité. Et puis certains m'ont exprimé une vraie difficulté à concilier tous ces passages qui parlent de renoncement à soi, de mort à soi, avec ce verset qui dit qu'il faut aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Comment ça va ensemble tout ça? Je vous donne maintenant très rapidement quelques exemples de conséquences de ces incompréhensions. Je ne m'attarde pas parce que ce n'est pas l'objectif de ce matin. Mais quand on comprend mal et quand on croit qu'il y a quelque chose qui doit être détruit en nous, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de personnalité. On s'efface devant les autres. On se laisse marcher sur les pieds parce qu'on a une fausse notion de l'humilité. On est dans le dénigrement de soi. On va enterrer tous ses talents. Porter sa croix, c'est compris comme je dois subir la vie. Je ne suis pas du tout acteur, actrice de ma vie. Je subis les personnes et les circonstances. Je suis dans la dépréciation de moi. Je ne m'aime pas. Je me déteste même. Et je peux être dans toutes sortes de comportements de rachat. Je ne suis pas assez bien, donc il faut toujours que je fasse plus, que je travaille mieux, que je fasse des efforts, que je devienne plus aimable, plus moral, plus persévérant, plus courageux, etc. Et tout ça n'a juste rien à voir avec la mort à soi, le renoncement à soi. Ça va, vous me suivez? C'est quoi le moi? Alors accrochez-vous, là je vais être un peu dans des définitions. Le moi, c'est un terme technique par lequel on désigne le centre du champ de conscience, cette capacité à avoir conscience de moi. Ça vient du terme latin ego, qui signifie je. Le moi ou l'ego est ce qui permet de dire je, de savoir que j'existe. Si vous faites disparaître le moi ou l'ego, il n'y a plus personne pour expérimenter la vie et pour la goûter. L'ego, c'est le moi-je. Quand les enfants grandissent et qu'ils commencent vers là, 2-3 ans, à savoir qu'ils sont une personne distincte, c'est moi-je veux. D'accord? Ce sentiment d'exister comme un individu indépendant tout en étant en relation avec les autres. Je pourrais le dire autrement aussi, c'est le moi, c'est la partie visible de notre personnalité. C'est la partie la plus consciente, en contact avec la réalité extérieure. Mais dans le milieu chrétien, le terme moi ou ego est connoté très négativement. Pourquoi? Parce qu'on pense immédiatement à certains mots comme égoïsme, égocentrisme, et clairement, c'est pas très glorieux comme comportement. En plus, on est dans une société où l'individu est devenu tellement plus important que le groupe et on est entré dans ce qu'on appelle la culture du culte de soi. Ça n'existait pas vraiment, ou pas de la même manière en tout cas, il y a encore 50 ou 60 ans. Le culte du moi, c'est quoi? C'est la préoccupation excessive de soi-même. C'est être centré sur son nombril. C'est mes droits, mon développement, mon épanouissement, mon bonheur, etc. qui priment. Donc si je fais une conclusion de cette partie, le moi ou l'ego font partie de notre être. Je ne peux pas vivre sans moi. Alors où est le problème? Je vais vous proposer maintenant une parabole pour expliquer. Une parabole, c'est quoi? C'est une image qui parle à notre cœur, à notre imagination, qu'on comprend intuitivement. Si je vous dis « Jésus est l'agneau de Dieu », ça vous fait penser à quoi? Un agneau, à l'innocence, la douceur. Du temps de Jésus, on pensait tout de suite sacrifice. Nous, ça ne nous parle plus tellement parce qu'on ne fait plus de sacrifice d'animaux, d'accord? Si je dis « Jésus est le lion de Juda », Le lion, c'est le roi des animaux. Donc, c'est une image qui parle de royauté, de force, de puissance. Si je dis Jésus est le rocher de ma vie, un rocher, c'est quelque chose de solide, d'immuable. D'accord ? C'est des images qui nous parlent. Une parabole, ça illustre toujours un aspect. Jésus, il n'est pas résumé entièrement par ces trois mots. Idem pour ma parabole. Elle illustre un aspect, pas toute la vie chrétienne. Alors, je vais y venir. Voilà ma parabole. Imaginez le cœur de l'homme. Et sur ce cœur, il y a un trône. Si je vous dis trône, vous pensez à quoi ? Roi. OK ? C'est une image. Et un roi, c'est qui ? C'est le chef. C'est celui qui commande. C'est l'autorité absolue. Alors, c'est pour ça que j'ai emmené mes deux chaises. Je n'ai pas de trône chez moi. J'ai pris ma jolie chaise jaune, parce que le jaune, ça fait penser à de l'or, d'accord ? Ça, c'est le trône. Et puis, vous voyez qu'à côté du trône, il y a un petit tabouret, juste à côté, la place à côté. Toute la question de la vie chrétienne est de savoir qui va s'asseoir sur le trône. Qui est le boss ? Qui commande ? Alors, pour bien expliquer, on va faire un grand retour en arrière jusqu'à la création. Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Genèse 2, 7, Dieu souffla dans les narines d'Adam et il devint un être vivant. Alors, je vous pose une question. Dieu a-t-il créé Adam et Ève avec ou sans moi ? Ou dit autrement, est-ce qu'ils existaient en tant qu'individus ? Oui. Adam et Ève, ce n'étaient pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Ils existaient en tant qu'individus, ils avaient un libre arbitre. La preuve, c'est qu'ils ont mal choisi. Si je prends ma parabole, qui est assis sur le trône du cœur d'Adam et Ève ? Le chef, c'est qui le chef ? C'est Dieu, d'accord ? Adam et Ève, ils étaient, le moi d'Adam et Ève plutôt, étaient là, en soumission à Dieu. Ok ? Dans cette relation à Dieu où ils recevaient de Dieu les instructions et ils allaient, dans cette relation, petit à petit, grandir vers plus de maturité. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute ? L'homme décide d'accéder tout seul à la connaissance du bien et du mal. Et en fait, Adam et Ève, ils éjectent Dieu du trône. Ça va ? À la chute, l'homme a décidé qu'il serait lui-même la source de la connaissance du bien et du mal, sans passer par Dieu. Il fait de soi-même sa propre référence en se mettant sur le trône. Le moi est devenu central à ce moment-là. Les conséquences, vous les connaissez : rupture de la relation avec Dieu, introduction de la mort. Tous les besoins humains d'amour, de sécurité, de reconnaissance se sont cassés la figure et l'homme est entré dans un processus de manque et de survie. Coupé de la source d'amour, Adam et Ève ne savent plus aimer. Les rapports de force, l'insécurité, la vulnérabilité, la honte s'installent. Et l'homme, à partir de là, est obligé de se battre pour exister, pour trouver sa place. Le moi, qui devait être un canal à cette place-là, par lequel l'amour divin s'écoulait, s'est mis sur le trône et a cherché à être l'objet de l'amour. C'est ça qui est important de comprendre. Le moi devait être un canal par lequel l'amour divin s'écoulait, mais il s'est mis sur le trône et a cherché à être l'objet de l'amour. Alors aujourd'hui, si vous lisez le début de l'Épître aux Romains, Paul nous dit que nous naissons en Adam. Ce qui veut dire que chez l'homme naturel, naturellement, chacun de nous, eh ben, le moi est assis sur le trône. Romains 8, au verset 7, dit « L'homme livré à lui-même, ou selon les versets, ou les traductions, pardon, l'homme charnel ou l'homme naturel, dans toutes ses tendances, ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas. » Alors concrètement, il ne s'agit pas de détruire le moi, mais de le détrôner, qui retourne à sa juste place. Nous ne sommes pas faits, nous n'avons pas été créés pour être assis sur le trône. Et c'est cette fixation d'amour sur le moi qu'il faut traiter. Alors j'ai envie de dire attention à tous les enseignements qui veulent rayer le moi humain. Et pour soi-disant le remplacer par Christ, d'accord ? Nous ne sommes pas destinés à devenir des zombies spirituels où toute individualité aurait été gommée pour que seul Jésus apparaisse. Si vous voulez des exemples bibliques, regardez à Pierre, regardez à Paul, ou des personnalités peut-être un peu plus douces, entre guillemets, comme Jean. Ce n'étaient pas des mollusques. Okay, ils avaient personnalité. Le moi, au lieu de fonctionner dans l'indépendance, doit redevenir l'instrument de l'esprit. Alors comment le moi devient-il l'instrument de l'esprit ? Quand vous et moi, nous nous sommes convertis, nous étions au départ là. Au moment de notre conversion, nous avons volontairement, et je précise bien volontairement, cédé la place. En fait, nous avons tous utilisé un vocabulaire du style « Jésus, tu es mon sauveur, Jésus, tu es mon Seigneur, mon roi ». Moi, je ne fais qu'illustrer de manière maintenant imagée ce qui s'est passé à l'intérieur de notre cœur. D'accord ? On a cédé la place d'autorité, on a cédé le trône au Seigneur. Je vous donne une citation de Tom Marshall. « La conversion est un acte de renonciation par lequel nous désavouons le moi en tant que but de notre affection et centre directeur de notre vie. » C'est un acte de reconnaissance par lequel nous nous approprions l'œuvre du calvaire. C'est important de comprendre. En mourant sur la croix, Jésus a brisé le pouvoir du moi. À la croix, le moi, il disparaît pas. D'accord ? Mais la croix permet de briser le pouvoir, l'autorité du moi à l'intérieur de notre vie. Si je fais l'analogie avec le péché, à la croix, le pouvoir du péché a été brisé. L'autorité du péché sur notre vie a été brisée. Mais le péché, il n'a pas disparu. Il est toujours là. D'accord ? Alors, vous allez me dire, Yolande, je suis convertie. C'est donc une affaire réglée. Jésus est sur le trône de mon cœur. Question. Est-ce que cette démarche faite au moment de la conversion suffit ? Non. Sommes-nous descendus du trône une fois pour toutes ? On a une petite tendance à y revenir de temps en temps, comme ça. La démarche qui consiste à abdiquer ce trône, je crois qu'on doit la faire très régulièrement. Le moi était, alors j'insiste quand même là-dessus, le moi était crucifié. La Bible dit que c'est un acte accompli. C'est Jésus qui a été crucifié et moi avec lui. D'accord ? Je n'ai pas à me crucifier moi-même. Mais je dois entrer dans cette réalité, la faire mienne toujours plus. Tout est accompli, a dit Jésus sur la croix. Et la vie chrétienne, de façon générale, sur cet aspect-là comme sur d'autres aspects, consiste à s'emparer toujours plus de ce que Christ a déjà accompli. Ok ? Alors, quand le moi est assis là, je suis un chrétien spirituel, conduit par le Saint-Esprit. Quand le moi est assis sur le trône, je parle donc à des chrétiens là, hein. Je suis toujours chrétien, je suis toujours chrétienne, mais je suis ce qu'on appelle un chrétien charnel. Vouloir rester sur le trône, vouloir garder le contrôle de ma vie, d'accord ? C'est le problème numéro un de chacun d'entre nous. Après, la manière dont ça se manifeste va prendre des formes très très différentes. On a vu maintenant l'aspect théologique. Je vais vous donner plein d'exemples pour le rendre bien concret. Quand je pêche, nous sommes chrétiens, ça nous arrive de pécher. J'espère pas mentir, voler, tuer, mais ça peut être un petit peu plus subtil que ça, puisque le péché, c'est rater la cible, être à côté du plan de Dieu. Quand je pêche et que je m'en rends compte, quand mon moi est assis ici, je demande pardon à Dieu. Je suis attristée par mon attitude. Je suis vraiment désolée d'avoir fait de la peine au Seigneur et je suis zélée pour changer. Quand mon moi est assis là, bien sûr, je demande pardon à Dieu aussi. Mais je pleure sur moi-même. Je suis tellement déçue de moi, déçue de ne pas avoir été à la hauteur. Je me sens misérable. Je suis très centrée sur moi. Et je peux éventuellement même tourner en rond dans la culpabilité. Parfois, je me trouve même des excuses, je me justifie. Ouais, mais Seigneur, tu sais, je suis plus déçue de moi dans cet acte de repentance que d'avoir fait de la peine à Dieu. Je peux démarrer ma journée là. Et je ne parle pas de quantité de minutes qu'on passe avec Dieu. Je parle simplement d'attitude de cœur. Seigneur, je te confie cette journée. Je parle avec le Seigneur de ma journée, éventuellement de ce dont j'ai peur, ce qui me préoccupe, ce qui me tracasse, les décisions à prendre. Je compte sur sa grâce. Je sais que j'ai besoin de lui. Et je continue pendant tout le reste de la journée à essayer de rester dans cette attitude qui consiste à collaborer avec le Seigneur. Là, je remets aussi ma journée au Seigneur, vite fait. Ou même peut-être pas vite fait, qu'importe. Mais je suis très centrée sur moi. En tout cas, je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je veux dire. Moi, je sais très bien faire la différence dans ma propre vie entre les deux attitudes. Je suis obnubilée par moi, comment je vais y arriver. Et je compte sur mes forces et je rassemble toute mon énergie et j'essaie d'y aller. Et pendant la journée, je trace. Je vous donne maintenant des exemples d'accompagnement que j'ai vécu et où on a travaillé cette question du renoncement à soi. Pour cette dame, descendre du trône, pour elle, voulait dire accepter le déménagement qu'elle avait vécu. Accepter d'entrer dans cette nouvelle étape de vie devant elle et arrêter de regarder toujours en arrière, à avant. C'était incroyable. Elle était convaincue que l'étape de vie dans laquelle elle était, c'était vraiment le plan de Dieu. Mais ce qu'elle avait dû lâcher, elle avait du mal à le lâcher. Et elle me dit, Yolande, si je lâche, je vais crever. En plus, les autres vont me dire, tu vois, on te l'avait bien dit. C'est insupportable. Et nous ? Quels sont les projets que nous ne voulons pas lâcher, peut-être parce que ça ne se passe pas tout à fait comme on avait imaginé, et qui fait que nous restons cramponnés à notre trône ? Pour cette autre dame, mourir à soi consiste à arrêter de contrôler toute sa famille. Elle était tout le temps, elle a un mari, 3 enfants adultes, elle était tout le temps derrière le dos de tout le monde, à vouloir donner un avis, un conseil, à dire ce qu'il faut faire, pas faire. J'exagère pas. Sa famille en avait ras-le-bol, ne la supportait plus. Elle se faisait envoyer bouler par tout le monde. Et bien sûr, elle était très malheureuse parce qu'elle se sentait rejetée. Pour elle, descendre du trône, c'est accepter de lâcher le contrôle sur les gens qu'elle aimait. Et accepter aussi de regarder en face sa propre vie, parce que quand on est occupé à s'occuper de la vie des autres, on ne s'occupe pas de soi. Et pour elle, ça voulait dire accepter de regarder en face la blessure qu'il y avait derrière son attitude d'insécurité qui voulait toujours tout contrôler. Elle avait besoin d'ouvrir ça à Dieu pour qu'il puisse prendre soin d'elle. Et nous, quelles sont les personnes que nous devons lâcher, laisser vivre leur vie, les respecter, faire confiance à Dieu pour qu'il s'occupe d'elle comme lui veut? Quelles sont les blessures que nous n'ouvrons pas à Dieu et qui font que nous restons cramponnés au trône? Je pense à cet homme blessé par l'adultère de sa femme. Il attend. Il attend que tous les changements viennent d'elle. Il est dans une attitude de propre juste. Il refuse de descendre du trône. Il est cramponné à sa souffrance. Sa souffrance est légitime. Mais il a beaucoup de mal à renoncer à une justice immédiate. Il a du mal à pardonner. Et nous? C'est quoi nos situations de non-pardon où nous restons cramponnés là à regarder notre souffrance? Autre situation, une jeune femme, une enfance compliquée, rejetée par son père, une maman pas toujours équilibrée, elle s'est convertie, elle a donc lâché le trône et on parle de ça et elle réalise, oui, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, il est mon maître. Mais elle se rend compte que chaque fois qu'elle a des conflits relationnels, elle retourne là. Oups. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois qu'elle était en tension avec quelqu'un, elle reprenait ses vieilles habitudes de réaction. Réaction, soit elle fuyait, soit elle sortait les griffes. Et elle attaquait. Et elle me dit, mais Yolande, descendre de là, je vais être toute nue, toute vulnérable. Comment je vais faire? Et nous, quels sont peut-être des comportements, des attitudes, des réflexes de défense qu'on a appris, qui sont les nôtres depuis tellement longtemps, auxquels nous restons cramponnés et nous restons là parce que ça nous sécurise et qu'on a n'ose pas faire confiance à Dieu pour nous faire cheminer. Je pense à ce monsieur qui veut tout comprendre, tout expliquer. Il ne peut pas aller de l'avant s'il n'a pas tout cerné avec sa tête. Pour lui, descendre du trône, c'est accepter de lâcher prise, de faire confiance à Dieu, même s'il ne peut pas avoir une réponse à tous ses pourquoi, même s'il ne peut pas tout mettre dans une boîte logique. Et chaque chose a sa place dans chaque case. Et nous, quels sont les raisonnements, les pourquoi auxquels nous nous cramponnons sur le trône? Le légalisme, le perfectionnisme se trouve ici. Pourquoi? Parce que nous voulons être bons, justes, parfaits par nos propres forces. Sur le trône, je vais avoir des temps de déprime et de mal-être et je vais demander l'aide de Dieu, Seigneur, aide-moi. Mais je suis centrée sur mon nombril. Moi, j'ai mal, Seigneur, aide-moi. Le moi sur le tabouret, il a aussi des moments de déprime. Hein. Il n'est pas parfait ici. Il a des hauts et des bas. Mais la posture n'est pas la même. C'est Seigneur, ça ne va pas. Je n'ai pas le moral. Ceci, cela. Mais s'il te plaît, je veux pas me faire avoir. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu peux me donner? Etc, etc. Sur le trône, Je peux être beau, je peux être belle, je peux être talentueux, je peux exceller dans ce que je fais, mais je vais avoir tendance à attirer les regards vers moi, à susciter l'admiration envers ma personne, parce que j'ai tellement besoin de reconnaissance et d'amour. Et nous sommes tous des puissants fonds en termes d'amour et de reconnaissance. Sur le tabouret, pareil, je peux être beau, je peux être talentueux, je peux exceller dans ce que je fais, je peux même recevoir l'admiration, les compliments, mais je sais rester humble, parce que je sais que tout est cadeau, que tous les dons éventuellement que j'ai, toutes mes capacités, elles m'ont été données par le Seigneur. Et je peux me réjouir avec Dieu, de dire « Waouh Seigneur, super ce qu'on a fait ensemble !» Avoir de la joie. Je sais rester humble. Sur le trône, mon moi exige une place, des honneurs. Le moi veut être reconnu. Et il peut le faire à coup de versets bibliques. D'accord ? Toute une série. Et ça, ça peut être dans mon couple, ma famille, mon travail, à l'église. Et quand le moi ne reçoit pas ce qu'il estime être en droit de recevoir, quand il est blessé pour X raisons, soit il attaque, il critique, il devient mauvais. Soit il déprime, il sombre dans la pitié de soi, dans l'isolement. Personne ne m'aime, personne ne me comprend. Sur le tabouret, le moi, il n'est pas parfait, il n'est pas au-dessus de tout ce qui lui arrive. Il peut aussi être déçu, blessé, déstabilisé par une situation. Mais la posture est différente. Il va ouvrir son cœur au Seigneur et il va chercher dans la relation avec Dieu ce qui lui manque au niveau horizontal. Et le Saint-Esprit peut lui donner toutes sortes de réponses. J'en donne juste deux exemples opposés exprès, mais entre les deux, il peut y avoir plein d'autres choses. Il peut lui dire, dans cette situation, tais-toi. Fais silence. Fais-moi juste confiance. Ou il peut lui dire, allez, debout, courage, affronte, parle, dans l'amour et la vérité. Ou autre chose. Alors que faire si je réalise que parfois, ou souvent, ou dans certaines situations, ou sur certains aspects de ma vie, j'ai tendance à être sur le trône? Et je vous garantis que quand j'ai préparé ce message, la première à être sondée, c'était moi. Lutter? Se forcer à descendre? En fait, on est un peu comme ça, hein. On essaie de descendre, ça ne marche pas. Je crois que ça ne marche pas. Culpabiliser, penser qu'on est un mauvais chrétien, nous flageller un petit peu comme ça, dans notre tête, ça ne sert à rien. La première chose, c'est qu'il faut avoir le désir de descendre. Notre oui est indispensable. Notre volonté est mise à contribution toujours. Dieu ne veut pas d'obéissance servile. Nous sommes des fils et des filles du roi, pas des esclaves. Donc oui, Seigneur, oui, je veux, je ne sais pas comment, je veux, je crois que j'y arriverai jamais, mais je veux. Je veux vraiment te dire ce oui. Le oui est indispensable. Et deuxièmement, je crois, c'est se tourner vers Dieu. Plus je connais Dieu, plus j'ai conscience de son amour, plus j'ai conscience de sa grâce. Je ne vais pas dire que ça va être facile de descendre, puisque la Bible parle de mort à soi, donc je pense que ça sous-entend que ce n'est pas forcément très facile, mais moi, ce sera compliqué. Si je pense juste à la question du pardon, quand je suis blessée par l'attitude de quelqu'un, si je reste centrée sur la situation, je n'y arriverai pas. Si, et je sais pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, si je me centre sur l'amour de Dieu pour moi, si je réalise tout ce que Dieu m'a pardonné à moi, si je me focalise là-dessus, si je prends plus conscience de sa grâce, eh bien, c'est plus facile de revenir là, à cette place-là. Je vais terminer juste par deux remarques. Attention à ne pas faire de mon expérience une règle pour tous. Tous les exemples que j'ai donnés sont des exemples de vie, pas une vérité générale, même si ça ressemble peut-être à une situation que tu vis. Tu as ton propre chemin à faire. Donc, premier point, pas faire de mon expérience une règle pour tout le monde. Deuxième point, attention à ne pas juger. La différence entre le trône et le tabouret peut être très subtile. Et seul Dieu est habilité à voir les motivations du cœur. Cette parabole est un outil personnel. Pour se situer, s'examiner soi-même. En aucun cas, c'est un outil pour s'occuper du moi de l'autre, de mon voisin, de ma femme, de mon mari, de mes enfants. D'accord ? Conclusion. Si la mort à soi est dans son essence la même pour chacun, chacune d'entre nous, c'est-à-dire lâcher prise sur le contrôle de ma vie, faire de Jésus mon Seigneur, que ce soit une réalité, pas juste un credo. Par contre, la manière dont ça se décline dans notre vie va être propre à chacun. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous avons abdiqué vraiment, d'autres où nous bataillons, d'autres où nous refusons de céder la place. Le passage du trône au tabouret est douloureux, mais ce n'est pas une option. C'est là où nous devons être. Et vous savez quoi ? En fait, quand je reste sur le tabouret, je réalise que ce n'est pas un austère tabouret en métal très inconfortable. Mais quand je suis à cette place-là, c'est une image, hein, je me rends compte que c'est un siège confortable, ergonomique, tout spécialement taillé pour moi. Là, à cette place-là, le joug de Jésus est doux et léger. Là, la vie chrétienne, elle est compliquée. C'est sur le tabouret que je suis vraiment libre. Je peux m'éclater dans ce que je suis, dans tous mes dons, donner le meilleur de moi-même. Alors qu'ici, sur le trône, je suis toujours au-dessus, en dessous, en comparaison, en rivalité, dépendant du regard des autres. Je vous propose maintenant un temps de silence pendant que l'équipe de louange va revenir, où nous pouvons tous nous examiner, se dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre moi ce matin ? Quelles sont les parties de ma vie où peut-être j'ai pas lâché prise ?» Tu n'es pas au contrôle. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Prenons ce chant comme vraiment un chant de consécration, un chant où nous avons réalisé durant ce message combien souvent nous revenons sur ce trône. Ce message m'a touchée, je voudrais juste donner un tout petit témoignage avant que nous puissions le chanter. Quand j'ai découvert Jésus comme mon sauveur, eh bien, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Sophie, regarde-toi avec les yeux comme moi je te vois ». Non pas comme moi je me voyais de temps en temps, beaucoup trop grande, beaucoup trop petite, parfois en m'écrasant, parfois avec de l'orgueil, mais en me montrant le regard d'amour qu'il avait sur moi et qu'il voulait venir sur le trône de nos vies. C'est la première chose que Jésus m'a dite quand je l'ai rencontré à l'âge de 18 ans. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, dans ce message qu'on a reçu, chacun de nous, et je vous invite encore à prendre quelques instants pour laisser vraiment grandir en nous cette interpellation. Qui est sur le trône de nos vies? Où est-ce que nous en sommes actuellement? Le Seigneur ne veut pas détruire notre moi, mais il veut vraiment que nous soyons à la bonne place, parce que c'est la meilleure place. C'est vrai qu'elle nous libère de beaucoup de choses, de tout ce qui peut être une entrave, le perfectionnisme, toutes ces choses dont Yolande a parlé. Prenons encore un temps pour nous examiner à la suite de ce temps. Ixa prendra ce chant, j'avais eu à cœur ce chant en sachant un peu le message, qui dit « Tu es le maître de tout mon être ». Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. C'est tellement important ça. Alors je vous invite à prendre encore quelques minutes pour nous examiner chacun, pour laisser Dieu nous parler aussi dans cette situation. Et ensuite on prendra ce chant comme un chant de consécration et je vous inviterai à vous lever alors pour le chanter avec nous. Mais prenons encore un petit peu un temps ensemble.
Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté.
Ensemble, chantons-le au Seigneur.
Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître. Et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Celui que tu veux que je sois.
Nous voulons rester pendant quelques instants encore, ce que nous avons entendu, repasser ces paroles sur nos cœurs. Et quand la parole de Dieu nous parle, il n'est pas bon de rester insensible. Je dis souvent que le chrétien passe aussi par des mini-conversions, des mini-repentances dans sa propre vie. Et quand nous reconnaissons, comme nous l'avons entendu, que c'est nous qui sommes sur le trône et que nous devons aller sur le tabouret, puis il est bon aussi d'y obéir. Il est bon de renoncer à soi-même, renoncer à certaines choses. Si nous voulons aller encore plus loin, si nous voulons franchir un pas de plus avec le Seigneur, eh bien, il est bon de revenir sur le tabouret. Et en ce matin, le Seigneur donne l'occasion à quelques-uns, plusieurs peut-être, eh bien, de choisir de faire ce pas-là. Peut-être d'abandonner une situation, d'abandonner une souffrance, d'abandonner une situation de non-pardon qui est là en train de bloquer notre vie spirituelle. C'est comme une pierre qui empêche l'eau de couler et qui lui empêche de donner toute sa plénitude. Alors en ce matin, celui qui voudrait abandonner quelque chose au Seigneur et lui dire « Seigneur, maintenant je laisse le trône. Je laisse le trône de mon moi et je te laisse toute la place. Je te laisse être le maître, le souverain. » Alors restez debout et nous allons prier ensemble. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de grâce. Quand la parole de Dieu est annoncée, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de salut. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Nous te bénissons parce que l'enseignement de ta parole nous éclaire. Elle nous permet de prendre conscience de là où nous sommes. Elle nous permet aussi de prendre conscience que, Seigneur, nous sommes peut-être détournés des voies, de la voie que tu avais choisie pour nous. Et maintenant, par ce temps de consécration, nous voulons revenir sur les voies droites qui nous conduisent à la vérité. C'est toi-même qui, comme David le disait, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et nous savons que la voie de l'éternité, c'est d'être sur le tabouret. C'est d'être, Seigneur mon Dieu, avec Jésus comme le maître, le sauveur, le chef de ma foi. Alors Seigneur, cette situation qui bloque l'un ou l'autre, cette situation de souffrance, cette situation de non-pardon, cette situation, Seigneur mon Dieu, qui détruit intérieurement, eh bien c'est au pied de la croix que nous la déposons ce matin. C'est au pied de la croix que nous l'abandonnons, Seigneur mon Dieu, et nous te disons simplement, sois le maître, Seigneur, que ton nom soit béni. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, bénir l'Église. Je veux en ton nom bénir l'Assemblée. Je veux, Seigneur mon Dieu, permettre au Saint-Esprit, Seigneur, de passer et comme un baume, de guérir toute situation qui empêche à ta grâce de couler. Reçois en ce matin la reconnaissance, l'adoration, la louange de nos cœurs. Merci pour l'onction divine. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Elle n'est pas souvent, Seigneur mon Dieu, bruyante, mais elle est, Seigneur mon Dieu, comme un souffle léger qui passe, qui guérit, qui pardonne, qui libère, qui régénère. Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. À toi sera la reconnaissance, l'adoration et la louange de nos cœurs. Amen. Amen. Alors on va terminer. Je ne sais pas, vous avez un chant encore ? Non, c'est bon ? Vous n'avez rien d'autre ?
On peut prendre le même, hein, par contre. Hein.
Oui,
ça serait pas mal de reprendre le même.
Ce serait bien.
Si vous êtes d'accord.
Mais oui, il faut reprendre. Voilà. Quand on est dans la présence du Seigneur, on n'a pas envie de partir. Vous êtes d'accord avec moi ? À moins que vous voulez repartir. Hein ? Parce qu'on peut refaire un autre culte. Hein. Voilà, je vous laisse l'occasion. Après, on terminera juste par la prière pour une situation de souffrance en Arménie. Nos frères arméniens m'ont informé que durant cette nuit, il y a eu un bombardement sur une des villes d'Arménie et ils nous demandent d'intercéder avec eux, de prier et justement pour que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu repose sur ce pays. Voilà, je vous laisse chanter et après on termine par la prière.
Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté.
Je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines.
Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Celui que tu veux que je sois.
Amen. Que ces paroles puissent effectivement, eh bien, s'imprégner dans nos vies et que nous puissions justement laisser le Seigneur être le maître de nos vies. Notre culte s'achève. Je vous souhaite déjà par avance un excellent dimanche, une bonne semaine sous la grâce et la présence du Seigneur. On va prier donc pour cette situation en Arménie, demandant au Seigneur effectivement d'être le maître et de régner sur ce pays. Vous savez que nous avons une bonne communauté arménienne dans notre église et donc on peut comprendre aussi que leurs cœurs sont un peu touchés par cette situation. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons confiance en toi, nous te gardons notre confiance. Nous voulons te prier pour cette situation dans cette ville d'Arménie qui a été bombardée, Seigneur mon Dieu, et nous voulons simplement, Seigneur, te remettre cette situation. Nous voulons prier que ta grâce, Seigneur, repose sur ce pays. Nous voulons prier également que l'Esprit de Dieu se révèle sur ce pays afin que, Seigneur, toute situation, Seigneur mon Dieu, eh bien, concourt au bien de ceux qui t'aiment, afin qu'au travers de cette situation, bien des hommes et des femmes de ce pays puissent se tourner vers toi et t'accepter comme étant le maître et leur sauveur, Seigneur. Nous te prions pour nos frères ici, nos frères et sœurs ici de la communauté, Seigneur. Prions aussi qu'aucun de leurs membres de leur famille ne puisse être touché par cette action. Nous bénissons ce pays en ton nom parce que nous savons que tu es le maître et seigneur et que tu es le sauveur des nations. Alors à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit la gloire, Seigneur. Nous te remercions et nous te bénissons. Et en ton nom, je veux renvoyer ton peuple. Je le bénis. Puisses-tu lui accorder, Seigneur mon Dieu, une semaine bénie sous ta grâce et sous ta bénédiction. Nous pensons tout particulièrement à ceux qui souffrent, Seigneur, peut-être dans leur corps, qui souffrent dans leur santé. Nous prions que l'Esprit de Dieu les visite parce que nous croyons que tu es le Dieu qui n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui et éternellement, capable de guérir, capable de relever, capable de délivrer. Seigneur, que ta grâce repose sur ton peuple. Je le renvoie en ton nom et tu le bénis, Seigneur mon Dieu. Reçois l'honneur et la louange dans le précieux et merveilleux nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bon retour à chacun et bon dimanche.